Europe 1, la France bouge.
20h, 21h, Elisabeth Assayag.
Bonsoir à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Bienvenue dans la France bouge, vous êtes sur Europe 1 au service de l'entrepreneuriat. Pendant une heure, des initiatives positives, des solutions et bien sûr, comme chaque soir, des pépites françaises. Ce soir, lundi de Pâques, j'espère que la chasse a été bonne. On va parler évidemment chocolat et de ce marché français avec un petit-fils et fils de chocolatier qui a repris l'entreprise familiale dans la Drôme. Alors comment se porte le chocolat en France? Que recherchent les clients? Le chocolat noir a-t-il toujours autant la cote? On va avoir toutes ces réponses avec vous, Richard Fournier. Bonsoir.
Bonsoir Elisabeth.
Bienvenue dans La France Bouge. Vous êtes le fondateur des comptoirs de Mathilde. Vous êtes l'invité de La France Bouge ce soir. Autour de la table, bonsoir Clara Léger.
Bonsoir Elisabeth.
Ça va, ça s'est bien passé lundi de Pâques?
Écoutez, très bien, j'ai mangé beaucoup de chocolat.
Bah oui, mais c'est excellent, on adore ça. Avec vous ce soir, on va prendre des nouvelles d'un membre de la grande communauté de La France Bouge. De qui s'agit-il?
On va prendre des nouvelles de Brigitte Bayard. C'est la fondatrice de Raconte-moi un chocolat, une box mensuelle de chocolat bien sûr, qui s'accompagne d'un parcours pour tout comprendre à la dégustation.
Pédagogie.
Exactement.
Elle est venue il y a 2 ans.
Exactement, en avril 2022. Et depuis, elle a bien fait grandir sa boîte, vous verrez.
Rendez-vous à 20h50. Dans cette France bouge, une start-up, cette jeune entrepreneur a vendu la voiture que ses parents lui avaient offert. Pourquoi? Eh bien, pour financer et lancer sa boîte. Sa start-up propose du chocolat pas comme les autres. Bonsoir Marie Reynaud.
Bonsoir Elisabeth.
Bienvenue dans la France bouge. Vous êtes la fondatrice de Delicao. Allez-vous convaincre le patron et le coach de ce soir? Il a la tête dans les nuages grâce à ses grands ballons. Son entreprise s'appelle Aérophile. Bonsoir Jérôme Giacomoni.
Bonsoir Elisabeth.
Vous allez bien?
J'adore ce sujet du chocolat.
C'est vrai?
Je suis super ravie de ce sujet.
C'est bien, ça fait plaisir. Vous êtes chocolat noir, chocolat blanc, chocolat au lait, vous?
Ah, plutôt chocolat noir.
Plutôt chocolat noir. Est-ce que ça vous a inspiré, Delicao, la start-up de ce soir?
Ah oui, je trouve que son aventure est superbe. Elle est jeune, elle se lance dans le chocolat, elle part dans un domaine qui a à la fois le plaisir et à la fois la santé. Donc très très beau sujet.
Très beau sujet. Et bien justement, on a une heure pour en parler sur Europe 1. La France bouge, c'est parti. Aux manettes de l'émission, Christophe Pierrot. C'est l'émission des audacieux. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h.
La France bouge. Il fait tourner la boîte.
Vous allez faire tourner la boîte aujourd'hui, lundi de Pâques, dans le domaine du chocolat. Richard Fournier, vous êtes le fondateur des comptoirs de Mathilde. On va aller faire un petit tour du côté du chocolat, des œufs de Pâques, du chocolat noir, du chocolat blanc, du chocolat au lait, de toutes sortes de chocolats avec les petites pralines aussi. Vous êtes le fondateur des comptoirs de Mathilde. Vous savez qu'il y a un rituel dans la France bouge. Avant d'entrer dans le détail, vous allez d'abord nous présenter votre entreprise. Est-ce que vous êtes prêt à nous présenter les comptoirs de Mathilde?
C'est
une minute. Vous êtes entraîné entre deux chocolats. Très bien. Et ben, vous allez vous rapprocher du micro. Et top chrono, une minute. C'est parti, c'est à vous.
Le comptoir de Mathilde, c'est une aventure gourmande, mais c'est surtout une histoire de passion, de transmission. Mathilde, ma grand-mère, était boulangère. Mon papa était pâtissier chocolatier à Saint-Étienne. Donc on peut dire que je suis tombé dans la marmite très très jeune. J'ai créé l'entreprise en 2007. Le comptoir de Mathilde fabrique ses chocolats et ses produits d'épicerie fine en Provence de façon artisanale. Notre signature, c'est la pâte à tartiner avec plus de 20 recettes, sans huile de palme, bien sûr, pour lesquelles nous avons sélectionné les meilleures noisettes et sans oublier notre fameux baba au rhum. Le comptoir de Mathilde, c'est 155 magasins en France et en Belgique et un réseau de distribution de 2400 revendeur dans une quarantaine de pays.
Vous avez encore beaucoup de choses à nous raconter?
Non, je voulais dire qu'on avait quand même 120 collaborateurs qui étaient passionnés à faire du chocolat dans nos ateliers et environ 600 personnes qui travaillaient dans nos magasins.
Très bien. Merci pour votre pitch, Richard Fournier, fondateur des comptoirs de Mathilde. Le nom est beau puisque vous nous l'avez dit dès le démarrage du pitch. Mathilde, c'est votre grand-mère. Votre grand-mère qui a été boulangère, votre papa pâtissier chocolatier. Donc, comptoir de Mathilde, c'est vous qui l'a fait fonder. Je reviens sur ce que je disais. C'est pas une entreprise familiale, c'est un état d'esprit familial autour du chocolat.
Exactement.
Non, c'est pas la même chose.
Je suis née dans une chocolaterie.
Vous êtes née dans une chocolaterie.
Ouais, à Saint-Étienne.
C'est-à-dire?
Eh bien, dans une petite chocolaterie, mon papa était artisan chocolatier et pâtissier également. Donc, c'était un petit établissement avec ma maman qui vendait les gâteaux et les chocolats. Et puis, mon papa qui les fabriquait à l'arrière dans le laboratoire.
C'est joli.
Et on vivait ici.
Okay.
Voilà.
Mais vous n'êtes pas allé directement vers l'univers du chocolat. Vous avez fait plein d'autres choses avant.
Pas du tout.
Vous êtes un entrepreneur dans l'âme.
Je suis fils de commerçant, petit-fils de commerçant, et donc j'avais qu'un rêve lorsque je suis autodidacte, hein, donc j'ai pas de formation particulière, ni dans les métiers de la gastronomie, ni dans d'autres métiers, et j'ai créé différentes entreprises.
Plein de choses, vous êtes allé,
mais
vous
en France
regardé,
et à l'étranger.
Vous avez fait
j'ai
énormément
beaucoup évolué
de choses
dans le monde de la senteur, en fin de compte, et de la décoration.
Dans les bougies, les savons. La savonnerie.
Exactement.
Vous avez aussi travaillé sur, vous avez démarré sur les marchés artisanaux.
Oui. Il y a 32
avec des,
ans.
De la broderie personnalisée.
J'étais tout jeune, j'avais créé une entreprise et je faisais de la broderie personnalisée sur les marchés artisanaux un peu partout en France et beaucoup sur les marchés de Noël.
Donc c'est votre 12e entreprise,
exactement,
les comptoirs de Mathilde. Pourquoi êtes-vous revenu vers finalement votre matrice, vers le chocolat?
Alors j'avais différentes entreprises et en 2004, j'ai créé un petit magasin en hommage à ma grand-mère qui était encore en vie. Elle a vu la boutique une fois avant de partir et c'était à Nyons dans la Drôme provençale. Donc en hommage à ma grand-mère, j'ai créé un petit magasin de produits régionaux. Au tout début, on n'était pas fabricant de chocolat, on était fabricant de produits régionaux. Lorsque j'ai revendu mes deux entreprises principales en 2007, je me suis retrouvé avec mon petit magasin qui plaisait beaucoup depuis 3 ans. Et là, je me suis dit, il y a peut-être un truc à faire. Donc, on va créer et fabriquer tous les produits que l'on commercialise. L'idée, ce n'était pas de créer une chaîne de magasins. Hein, c'était d'avoir 2-3 magasins à côté de chez nous, en Provence, et de continuer de faire des marchés de Noël. Et puis, l'histoire a été tout autre parce que le concept a beaucoup plu. Les gens sont venus vers nous spontanément. Et ils nous ont demandé, est-ce que ce magasin, je pourrais l'avoir? Et donc l'idée de dupliquer les magasins est venue. Mais avant ça, il fallait quand même asseoir la fabrication des produits.
Alors ils sont fabriqués où vos chocolats, les comptoirs de Mathilde?
Au début, on a attaqué à Tulette, dans la Drôme provençale.
Ouais. Vous êtes allé voir un atelier ou c'est vous qui faites tout en interne? Tout est...
Aujourd'hui, encore 75% des produits sont fabriqués dans nos ateliers. On a 5 grands ateliers. Un atelier chocolat de grignotage, un atelier pâte à tartiner.
C'est quoi le chocolat de grignotage?
C'est du chocolat pour manger tous les jours devant la télé. Des mendiants, des petites surdinées.
Les orangettes.
On attaque un sachet, on le termine.
Ouais, c'est vrai.
Voilà, c'est le chocolat de grignotage.
Jérôme Giacomoni, vous êtes le coach de ce soir. Je rappelle que vous êtes le cofondateur du groupe Aérophile. Quel regard portez-vous sur ce que nous raconte Richard Fournier sur les comptoirs de Mathilde?
Eh bien, c'est souvent le cas chez les entrepreneurs, la ténacité et la volonté d'entreprendre. Et puis de sentir, de trouver un marché, de toujours rebondir, de toujours trouver des idées. C'est très inspirant.
C'est pas évident le chocolat quand même. Hein.
Non, ça doit être très concurrentiel.
Ouais,
je pense qu'il y a quand même beaucoup de concurrence.
On est en 2007. Hein, quand
2007.
Vous... 2007, il y a quand même des grands chocolatiers qui existent toujours aujourd'hui, qui sont là. Qu'est-ce qui fait que vous vous lancez et comment vous trouvez votre cible, votre clientèle?
Alors, je suis rentré chez moi et j'ai dit à mon père, papa, je vais faire du chocolat. Il m'a dit, chocolatier, c'est un métier, tu vas te planter.
Sympa.
Déjà, ça m'a motivé. Et ensuite, j'avais identifié qu'il y avait, donc, comme vous l'avez dit, tous les grands chocolatiers. Les artisans chocolatiers, les Jean-Paul Evin, les Bernachon à Lyon, enfin tous les grands noms qu'on connaît. Et ensuite, il y avait beaucoup d'intervenants dans le monde de la grande distribution. Lindt et tous ces grands noms du chocolat. Et au milieu, dans le métier dans lequel j'évoluais, c'est-à-dire l'épicerie fine, il n'y avait pas grand monde quand même. Donc on a un petit peu disrupté le monde du chocolat en 2008 parce qu'on a été les premiers à revisiter un grand classique, une pâte à tartiner très connue, italienne, en faisant la première...
Vous avez été l'un des premiers, parce qu'aujourd'hui, tout le monde fait sa pâte à tartiner. Vous avez été l'un des premiers à vous dire, bon, il y a la...
À faire une pâte à tartiner sans huile de palme.
Sans huile de palme. À la place,
de façon
c'est quoi?
Artisanale.
À la place de l'huile de palme, on trouve quoi?
C'est de l'huile de tournesol.
L'huile de tournesol. Clara Léger, on est des gros consommateurs de chocolat, nous, en France?
Oui, on est l'un des pays où on mange le plus de chocolat. Environ 7,3 kilos de chocolat par personne par an. On est 97% à manger du chocolat au moins une fois par semaine. Je dis bien au moins.
Au moins.
En 2021, les tablettes de chocolat ont représenté environ 36% du marché du chocolat et les pâtes à tartiner presque 25% du marché. Donc on consomme autant de chocolat que de pâtes à tartiner.
Mais c'est en constante augmentation, les pâtes à tartiner.
Oui, c'est vrai. Ouais. Évidemment, les deux périodes où on mange le plus de chocolat, c'est Noël et Pâques, bien sûr, qui représentent 319 millions d'euros de ventes.
Ça représente quoi chez vous, Richard Fournier? Je rappelle que vous êtes le fondateur des comptoirs de Mathilde ce soir sur Europe 1.
De quoi? Pâques. On voulait parler... Pâques,
ouais,
c'est 20% de notre chiffre d'affaires.
20% et le reste, c'est Noël. Ça s'est bien passé cette année, c'est-à-dire comment ça se porte, comment s'annonce 2024 pour vous, les comptoirs de Mathilde?
C'est une belle année, avec beaucoup d'appréhension quand même, parce qu'on sent une baisse de flux dans les magasins. Hein,
moins
la consommation,
de clientèle.
La consommation est plus compliquée.
C'est un luxe accessible, le chocolat, quand même.
Alors, ça l'était, ça le sera un petit peu moins, parce qu'il y a des cours de chocolat qui sont enflammés, là.
Ouais.
Et on a connu une hausse de 280% sur la dernière année. Hein. Les cours de chocolat battent des records tous les jours.
Alors vous, ça veut dire que vous avez augmenté vos prix? C'est combien en moyenne chez vous le chocolat au comptoir de Mathilde?
Le chocolat, chez nous, c'est entre 49 et 69 euros du kilo. La volonté du comptoir de Mathilde, le succès du comptoir de Mathilde, c'est d'avoir des chocolats accessibles.
Ouais, ça veut dire que quand on achète un ballotin avec, je sais pas...
Alors, on n'a pas de ballotin chez nous.
Ah non, alors c'est quoi?
Non.
C'est quoi
chocolat de grignotage, c'est des tablettes, c'est des turbinés, ce sont des mendiants, ce sont des orangettes.
Mais il n'y a pas de...
On n'a pas de bonbons de chocolat.
D'accord, très bien. Jérôme Giacomoni, vous le savez peut-être, mais les comptoirs de Mathilde, c'est un modèle qui est basé sur la franchise. Est-ce que vous trouvez que par rapport à un marché comme le chocolat, ça correspond à ce genre de modèle économique?
Je pense que la franchise est un bon modèle parce que finalement, quand vous êtes franchisé, vous êtes vraiment en permanence le patron de votre franchise et donc vous mettez tout votre cœur. Quand vous êtes plutôt une grande boîte et vous avez plusieurs magasins, c'est plus difficile d'avoir ces motivations dans chaque entreprise, dans chaque magasin. Donc oui, je pense que la franchise est un très bon modèle.
Pour le chocolat?
Dans beaucoup de domaines, ouais, en réalité. Et ça permet en plus, sans doute, pour vous de pouvoir distribuer plus, de pouvoir avoir des coûts qui diminuent parce que vous en distribuez plus dans plus d'endroits. Donc je pense que c'est très vertueux.
Ouais. Et c'est le cas, Richard Fournier, les comptoirs de Mathilde. Combien de franchisés aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, on a 155 magasins et on a 9 boutiques en propre. Donc la différence, c'est les magasins en franchise. Donc c'est la majorité. Hein,
ouais, bah oui, 155 versus 9.
De nos magasins sont sous le modèle de la franchise. Mmh. On n'a pas de volonté, nous, de développer plus de succursales. On ouvre des magasins où nos magasins se trouvent dans la région sud-est, à côté de chez nous, hein, comme on est situé dans le Vaucluse, à Camaret-sur-Aigle. Et ensuite, on a beaucoup de demandes un peu partout en France. On est sur un rythme de 20 à 25 ouvertures par an, rythme qu'on veut conserver pour atteindre les 250 magasins d'ici à 2028, avant l'ouverture à l'international. On a déjà 2 magasins en Belgique. Je pense qu'on est les seuls chocolatiers français à être installés en Belgique. Et on ouvre une deuxième boutique à Bruges. On avait déjà une boutique à Bruges, une boutique à Bruxelles, et une deuxième ouvre dans quelques jours, je crois, dans une quinzaine de jours.
Donc vous, si je comprends bien, votre spécificité, ce sont les pâtes à tartiner, ce sont ces chocolats que l'on mange sans s'en apercevoir. Hein. Vous avez parlé dans votre pitch, vous avez parlé de votre fameux baba au rhum. Quel est le lien avec le chocolat?
Eh bien écoutez, je vous ai dit au début qu'on était fabricant de produits régionaux, et notamment on était artisan liquoriste. Mmh. Donc on fabriquait des apéritifs et liqueurs, notamment une spécialité, le baba au rhum. Donc au tout début, les gens venaient chez nous pour notre baba au rhum.
Que vous avez conservé?
Qu'on a conservé, bien sûr. On a conservé, on a fait même le tour de France des liqueurs. On a un baba au cognac, un baba à l'armagnac, un baba au
Cointreau. Donc là aussi, avec des produits purs, des produits, vous essayez le plus naturel possible. Vous disiez votre huile de pâte à tartiner n'a pas d'huile de palme, n'a pas d'OGM. J'imagine que ce sont des noisettes françaises aussi.
Noisettes françaises ou noisettes italiennes.
On est
sur des noisettes du Lot-et-Garonne et des noisettes italiennes qu'on va sourcer directement chez les producteurs dans le Piémont.
Il paraît que vous élaborez chaque année plus de 200 nouvelles recettes. Nouvelles recettes de quoi?
200, c'est un peu beaucoup, mais 150 à 180.
Mais c'est beaucoup aussi.
Oui, alors c'est des adaptations.
On innove comment quand on est chocolatier?
Écoutez, le succès du comptoir de Mathilde, il y a eu quelques produits iconiques dans la vie du comptoir, notamment un qui s'appelle le hot chocolate. C'est une petite cuillère avec une masse de chocolat qu'on met dans du lait chaud et qu'on fait tourner.
Je vois très bien, c'est très bon.
C'est un produit que j'ai lancé en 2008, en même temps que les pâtes à tartiner. C'est devenu un produit un peu iconique, souvent copié, jamais égalé. Et on en fabrique plus de 1 million d'exemplaires.
Mais ces idées viennent de vous ou viennent de vos équipes? Parce que vous nous sortez...
J'ai démarré, j'étais seul.
Oui, mais c'est pour ça. Donc vous êtes très créatif de ce que j'entends. Vous n'êtes pas artisan chocolatier,
j'ai pas de formation d'artisan chocolatier, même si aujourd'hui je suis diplômé, parce que j'ai passé le diplôme, mais j'ai pas de formation.
Mais
donc
vous avez les idées.
On a les idées, et seul un truc m'intéresse, c'est vraiment la matière.
C'est-à-dire ?
Écoutez, dans ma vie professionnelle, j'ai fait des savons, j'ai fait des bougies, j'ai fait plein de... Et donc, c'est toujours le même principe, hein. C'est une matière qu'on vient couler dans un moule et tout. Et donc, le chocolat est quelque chose qui m'a beaucoup inspiré.
Mmh. Vous nous disiez que vous ouvrez beaucoup, beaucoup de magasins. Près de 50% des comptoirs de Mathilde se situent à l'intérieur des centres commerciaux.
Même un peu plus. Hein, je crois qu'aujourd'hui, on est entre 60 et 65%.
Mais moi, ça m'a frappé ce chiffre, parce qu'on est à un moment où il y a énormément de magasins qui ferment à cause des loyers, qui ne cessent de flamber au cœur des centres commerciaux. Comment vous, les comptoirs de Mathilde, vous arrivez à rester, à vous implanter au sein de ces grands centres commerciaux qui traversent une période compliquée, hein, tourmentée en ce moment?
C'est vrai, c'est tourmenté, mais les centres-villes le sont encore plus. Il faut savoir que lorsque vous ouvrez une boutique dans un centre-ville, vous payez un droit de bail, alors qu'on n'en paye plus dans les centres commerciaux. C'est fini depuis déjà quelques années. Et en même temps, les loyers, on arrive à discuter avec des foncières et à négocier des loyers.
C'est pas toujours le cas. On a reçu pas mal de... On a eu Maxime Holder il n'y a pas longtemps, le patron de Paul, qui a fermé quelques-uns de ses points de vente au sein de certains centres commerciaux parce que les loyers, voilà, ça augmente tous les... C'est des baux de 3 ans dans les centres commerciaux?
C'est des baux de 11 ans même.
11 ans, bah voilà. Donc qui augmentent sans arrêt. Donc vous, au contraire, c'est aussi un modèle auquel vous tenez d'aller
c'est compliqué,
vous implanter là-dedans.
On discute avec les foncières et on est surtout sur des surfaces qui ne sont pas celles des boulangeries Paul. Hein. Mmh. On est sur des surfaces de 40 à 60 mètres carrés, donc c'est plutôt des petites surfaces qui sont moins demandées également.
Ça veut dire que en gros, ce que vous nous dites, c'est si vous êtes caché au fond du centre commercial, ça ne vous dérange pas?
Non, il nous faut de la visibilité.
Alors
Moins demandé par les enseignes. Par exemple, aujourd'hui, il y a une grosse crise dans le monde du textile. Lorsqu'il y a un magasin ou une enseigne qui tombe, bien, ils redivisent les cellules. Une cellule qui est faite pour une enseigne de prêt-à-porter qui fait 200 à 300 mètres carrés va être redivisée
en plusieurs lots. Les Paris 2024 approchent à grands pas. Est-ce que quand on est chocolatier, on imagine, français, on imagine un chocolat dédié aux JO, aux Jeux Olympiques?
Alors, les Jeux Olympiques ont lieu au mois de juillet.
Ouais.
Et ce n'est pas une période propice pour la vente.
Donc on s'en fiche, les touristes.
Oui, effectivement.
Ah bon, carrément.
Ah, on s'en fiche pas.
Non, quand même.
On les accueille.
Ouais.
Mais dans nos boutiques, toujours avec le
avec
même
le sourire, bien
avec
sûr.
Sourire.
Mais il n'y a pas un chocolat dédié aux JO.
Il n'y a pas de chocolat dédié aux JO.
D'accord. Clara Léger, alors, vous nous l'avez dit, on est des gros consommateurs de chocolat en France. On dépense en moyenne combien? Là, pour ces fêtes de Pâques, là.
Pour les fêtes de Pâques, on dépense en moyenne 19,31 € pour du chocolat. En 2020, 15 000 tonnes de chocolat ont été vendues pour la fête de Pâques.
Et ça démarre très tôt, hein, parce que je vois dans la grande distribution, depuis le début du mois de mars, les œufs de Pâques, les rayons sont remplis. C'est une fête importante.
C'est une fête très importante pour les chocolatiers.
Quel que soit le niveau de chocolat. Hein.
Quel que soit le niveau. Mm. Par contre, les ventes se passent essentiellement dans les 10 derniers jours.
Europe 1, la France bouge.
Elisabeth Assayag.
Et si vous nous rejoignez, vous êtes bien sur Europe 1. Vous écoutez La France bouge, l'émission des entrepreneurs et des belles entreprises françaises. Et ce soir, lundi de Pâques, on parle évidemment chocolat. Mais oui, dans La France bouge, la chasse aux œufs a eu lieu. Ça s'est bien passé, Clara? Vous faites les chasses aux œufs, vous, chaque année?
Oui, moi, je fais les chasses aux œufs. Mais pourtant, il n'y a plus d'enfants dans ma famille.
On est
que des adultes.
Enfants.
Et on fait quand même la chasse aux œufs, bien sûr.
Vous avez bien. Donc la récolte a été bonne.
La récolte a été bonne. J'ai eu le plus de chocolat de toute ma famille.
Et ben voilà, c'est ce qu'a constaté aussi Antoine Fenech. Micro Europe 1 de La France bouge, écoutez.
Oui, avec mes petits-neveux, on a prévu de faire une chasse aux œufs de Pâques. Évidemment, les enfants adorent ça.
Tous les ans, on fête Pâques en famille. On a la chance d'avoir une maison avec un jardin à côté de Paris. Et donc, on reçoit tous les enfants de la famille. Suite au repas, s'il fait beau, on fait la récolte des œufs dans le jardin. Et évidemment, les enfants vont plutôt préférer le chocolat au lait.
C'est une ambiance assez sympathique, la période de Pâques. Et j'achète du chocolat pour contribuer à cette atmosphère. Surtout avec ma nièce qui est toute petite et qui découvre les joies d'aller chercher des petits œufs cachés dans la maison.
J'ai passé l'âge de faire la chasse aux œufs. Je suis une grande fan de chocolat, donc j'en mange toute l'année. Je n'attends pas Pâques pour le faire.
Ah, la chasse aux œufs de Pâques, oui, bah c'est un événement qu'on aime bien faire en famille. Le dimanche de Pâques, c'est quelque chose qu'on essaye de perpétuer pour la bonne ambiance, passer une journée en famille.
Je fais des chasses aux œufs pour les enfants. La chasse, c'est un petit peu caché dans la maison, ça s'arrête là. Alors moi, je préfère le chocolat noir, mais les enfants en général préfèrent le chocolat au lait.
Ah, ça fait du bien d'entendre ces sourires. Hein. En général, les adultes préfèrent le chocolat noir et les enfants chocolat au lait. Clara, vous êtes restée au chocolat au lait?
Moi, je reste chocolat au lait, mais je me mets de plus en plus au chocolat noir parce que c'est meilleur pour la santé.
Et ouais, oui, c'est... mais d'ailleurs, c'est meilleur pour la santé. Le chocolat a des bienfaits, d'ailleurs, Clara.
Oui, plus c'est concentré en cacao, en fait, meilleur il est pour la santé. Dans le cacao, il y a des flavonoïdes qui sont des antioxydants réputés pour la mémoire, la concentration, la réduction de la pression artérielle, entre autres. Il y a aussi des substances qui boostent les endorphines. Ça, c'est les hormones qui mettent de bonne humeur, et le cacao a aussi des vertus relaxantes grâce notamment au magnésium. Plus le cacao est fort, plus il est concentré en magnésium.
Ouais, il faut s'habituer. Hein. Moi, le chocolat à 80% de cacao, vous y arrivez, vous, Jérôme?
Moi, j'adore ça.
C'est vrai?
Ah, je prends du 85.
C'est vrai?
Ah, ouais, je suis un fan.
Ah, ouais. Et vous, Richard Fournier, vous êtes le patron des comptoirs de Mathilde, vous préférez quoi?
Écoutez, moi, je mange beaucoup de chocolat au lait.
Ouais.
Mais c'est vrai que. En dégustation, on est très chocolat noir.
Ouais, et justement, on le disait, le chocolat noir est encore plus recherché en raison de son faible apport en sucre, ainsi que sa teneur plus importante en fibres. Et de la même manière que la tendance de la réduction du sucre continue, le chocolat sans sucre ajouté est de plus en plus privilégié par toutes et tous. Hein, même, on est obligé d'avoir des restrictions alimentaires. Alors justement, ce soir, dans la France bouge sur Europe 1, on déniche comme chaque soir des entrepreneurs qui se lance. Ce soir, une entrepreneur qui a fait le choix d'aller encore plus loin avec son chocolat étonnant.
Europe 1, la France bouge.
La pépite.
C'est vous ce soir la pépite sur Europe 1. Marie Reynaud, vous êtes la fondatrice de Delicao. On va revenir un petit peu sur votre parcours, parce que derrière tout entrepreneur, il y a un parcours. Hein. On l'a vu avec Richard Fournier les comptoirs de Mathilde. Vous, Marie, vous avez 29 ans, vous êtes bordelaise, vous avez fait des études en école de commerce. Et alors vous, ce qui est étonnant, ce qui m'a frappée quand j'ai regardé un petit peu votre parcours, c'est que c'est parce que vous avez aidé un ami à monter une entreprise de A à Z, sans prendre de participation, sans rien, juste vous l'avez aidé. C'était, je crois, une entreprise dans l'univers du CBD. Ça vous a donné envie de vous lancer?
Oui, tout à fait. Moi, comme vous l'avez dit, j'ai fait une école de commerce, mais je n'étais pas du tout partie pour être entrepreneur. Je voulais travailler en l'hôtellerie et la restauration. C'est un univers que j'adore. J'adore l'expérience client et voilà, le service qu'il y a autour de la clientèle et de la restauration.
Donc vous faites votre école de commerce, vous dites, moi, je vais aller travailler dans la restauration, dans l'hôtellerie. Sauf que au moment où vous devez faire vos stages... Le Covid arrive.
Exactement, j'ai fait tous mes stages dans l'hôtellerie et mon stage de fin d'année, j'étais en Thaïlande, dans l'hôtel en Thaïlande, et j'ai dû rentrer en France. Mon stage a été non pas annulé mais mis en pause, et à l'époque on savait pas vraiment où on allait aller, donc moi j'attendais et j'étais confinée en attente surtout de savoir si j'allais pouvoir continuer mon stage, reprendre, trouver du travail aussi par la suite. Donc j'étais confinée et je me penchais sur mes deux passions qui sont la cuisine, la gourmandise, les moments de partage et qu'on a tous vécu pendant le Covid. Et prendre soin de moi, faire du sport, prendre soin de ma santé, commencer à regarder un petit peu les plantes, les compléments alimentaires. Moi, j'ai un papa médecin, donc j'aime beaucoup le domaine du bien-être. Et je me penchais un peu là-dessus, toujours en cherchant, en attendant en fait, de reprendre le travail.
Donc vous faites du sport, c'est-à-dire que vous avez commencé à suivre les cours en ligne, vous avez cuisiné, c'est ça en fait qui vous a... Et c'est comme ça que l'idée émerge?
Un peu en fait, c'est ça, c'était mon quotidien, c'était cuisiner, le monde partage et faire du sport. Et à côté, j'attendais que mon stage reprenne, ce qui n'était pas le cas.
Il n'a jamais repris?
Non, il n'a jamais repris. Et à ce moment-là, j'avais un ami péruvien qui me demande des conseils, parce qu'il avait une idée, c'était de lancer sa boutique de CBD au Pérou. Et comme il n'avait pas de background en...
C'est pointu, hein?
C'est exactement.
La boutique de CBD au Pérou.
Exactement, il savait que j'avais une école de commerce et des compétences en marketing et en gestion. Donc il m'a demandé de lui donner des conseils pour la création de A à Z, de la création de la marque jusqu'à l'ouverture de la boutique. La gestion par la suite de la clientèle, du service après-vente, des distributeurs, des fournisseurs. Donc j'ai tout fait avec lui et j'ai adoré en fait monter une marque. Alors c'était pas mon pays, c'était pas mon produit, c'était pas mon univers, mais ça m'a donné envie de créer quelque chose qui me correspondait plus, qui correspondait à mes valeurs et de lier ces deux aspects de ma vie que j'aime beaucoup. C'est pour moi la nourriture, la gastronomie.
Mais oui, parce que vous êtes fille de médecin et de vigneron aussi. Hein.
C'est
vous
n'avez
pas dit, mais c'est important de le préciser. Hein.
C'est ça, mon papa a une double casquette. Il est médecin généraliste jusqu'à ses 40 ans. Et ensuite, il est devenu viticulteur. Donc maintenant, on l'appelle le médecin du vin. Et donc, il fait du vin et il s'occupe aussi des autres. Donc, j'ai pris un peu ce parti aussi.
Vous avez pris ce chemin-là avec Delicao. Ça veut dire quoi, Delicao?
Delicao, c'est pour le côté délicatesse, délicatessen, donc épicerie fine, gourmandise. Délicatesse aussi, délicieux. Et le chaos de cacao, avec le petit K, la consonance basque, parce que je suis aussi basque, donc
Voilà. D-E-L-I-K-O. Maintenant, vous allez nous dire concrètement ce que c'est. Vous avez apporté les tablettes qui sont très belles parce qu'elles sont colorées. Il y en a des oranges, des parmes, des jaunes, couleur du soleil. On vous écoute pendant une minute, Marie Reynaud, et ensuite, on va revenir en détail sur votre produit. C'est à vous.
Alors, Delicao, c'est la première marque française de chocolat gourmand et fonctionnel. Donc, c'est avant tout des recettes qui sont gourmandes, rondes, et je cherche à lier plaisir avec bien-être en ajoutant des plantes, vitamines et minéraux d'origine naturelle pour apporter des vertus au chocolat. Comme on l'a vu précédemment, le cacao a de nombreuses vertus et moi je viens amplifier ses bénéfices grâce à l'ajout d'ingrédients à bénéfice santé. Delicao s'est lancé maintenant il y a 8 mois avec 3 recettes. Mon chocolat noir pour la peau, donc le Skin Glow, c'est un chocolat noir avec de l'acide hyaluronique et le Skinax, qui est un ingrédient breveté qui vient protéger la peau contre le stress oxydatif. Mon chocolat au lait, c'est le Get Up and Go, c'est un chocolat pour l'énergie. C'est un chocolat au lait très gourmand qui vient pétiller en bouche, enrichi en guarana. Acérola riche en vitamine C et magnésium. Et ma troisième recette, c'est le Feel Good. C'est un chocolat qui vient apaiser et réduire le stress, avec notamment l'ingrédient breveté, le lactium, qui réduit la sécrétion de cortisol, et le magnésium. Depuis février, j'ai une nouvelle recette, mon chocolat aphrodisiaque, qui est un chocolat lait caramel gingembre avec maca, damiana et zinc, qui vient stimuler la libido.
Merci, on était tous très attentifs à vos paroles. Marie Reynaud, fondatrice de Delicao, ça vous inspire quoi autour de la table ? Clara ?
Bah écoutez, moi je me suis gavée de chocolat toute la journée, mais j'ai quand même encore envie d'en manger, ça m'a trop donné envie.
Évidemment, Jérôme Giacomoni ?
C'est bluffant parce qu'elle a défini une recette par plaque de chocolat, donc on a vraiment un axe suivant ce qu'on veut,
un peu
comme,
comme
quand on prend des tisanes le soir, c'est on choisit la tisane apaisante, etc. Donc je trouve que c'est une super idée
de
pas avoir mis que tous les produits dans la même tablette, mais d'avoir choisi des axes.
Tout est ciblé, c'est
donc ça,
vous
c'est
avez
une très bonne idée
raison.
De marketing, bravo.
Richard Fournier, vous êtes le fondateur des comptoirs de Mathilde. Quel regard portez-vous sur ce que vous venez d'entendre avec Marie Reynaud et Delicao?
Tout d'abord, bravo Marie, hein, parce que moi j'aime les jeunes qui entreprennent. Et puis très souvent, j'essaye de les accompagner avec lorsqu'ils viennent me voir. Vraiment, bravo, c'est une belle initiative. Et dans le monde du chocolat, c'est innovant de mélanger le bien-être, les vertus pour la santé et puis le plaisir du chocolat. Bravo.
Merci
belle initiative.
Beaucoup. Donc, on valide tous. Alors, moi, je peux vous dire, je les ai déjà
goûtés. J'ai hâte de goûter.
Parce que, en vrai, on vous raconte tous les coulisses de la France Bouge. Marie Reynaud, ça fait plusieurs mois qu'elle m'écrit pour venir dans la France Bouge. Elle m'envoie des tablettes de chocolat. Je réponds, comme j'essaye de vous répondre à toutes et tous quand vous m'écrivez. Si on fait une émission, si ça peut, évidemment, on vous fait venir. Donc, c'est pour vous dire aussi que dans la France Bouge, même ce qui vous paraît pas possible, c'est possible. Hein, puisque vous, Marie, vous avez fait. Vous avez eu beaucoup de ténacité pour y arriver et c'est une qualité de l'entrepreneur, hein, Jérôme.
Ah bah c'est une qualité essentielle.
C'est majeur.
Il fait pas toujours beau sur la planète. En temps, vous avez des tempêtes, il faut tenir, vous avez des crises. Là, on a vu que Marie avait, grâce au Covid, bizarrement, eu son idée. Mmh. Donc en fait, c'est dans le chaos que parfois arrive après l'harmonie. Mmh. Donc oui, il faut quand on est entrepreneur, c'est jamais un long fleuve tranquille.
C'est jamais
et il faut
un long
être
fleuve
prêt
tranquille.
À vivre des tempêtes.
Et c'est aussi pour ça qu'on est ravis de vous avoir ce soir, Marie. Donc j'ai goûté, moi je trouve ça très bon. Maintenant, racontez-nous qui fabrique ces chocolats, d'où viennent les recettes, c'est quoi les coulisses?
Oui, tout à fait. Alors, quand j'ai eu cette idée, j'étais seule et je ne connais pas du tout le monde du chocolat. Donc déjà, je me suis demandé, est-ce que c'est possible? Donc c'était encore pendant le Covid. Et il y avait à l'époque l'application Clubhouse, où il y avait des rooms et des conférences d'experts dans leur
domaine.
Exactement. Et j'étais sur des rooms d'innovation dans l'alimentaire, en disant que j'allais me renseigner sur... comment en fait aborder une innovation alimentaire, par quelle étape passer. Et j'avais découvert dans cette room-là un métier qui est celui de l'innovation dans le secteur alimentaire, agroalimentaire et complément alimentaire. Donc j'ai contacté cette personne qui m'a mis en relation avec ma première partenaire, c'est une prestataire mais moi je l'appelle ma partenaire, qui a fait avec moi mes recettes. Donc je l'ai contactée, ça fait 2 ans et demi maintenant.
Mais c'est quoi, c'est une nutritionniste, c'est quoi?
Alors, elle est spécialiste en innovation alimentaire, agroalimentaire et compléments alimentaires. Donc, en fait, on travaille ensemble sur... alors, c'est moi qui expose mon souci, mon besoin, ce que je veux comme chocolat. Donc, après mon étude marketing, étude de marché, je choisis mes recettes. Je vais en pharmacie, je regarde un peu tous les ingrédients possibles sur les listes de chocolat, enfin, sur les listes de compléments, par exemple, pour l'énergie. Ensuite, j'apporte cette liste alors, elle s'appelle Odile, et on regarde ensemble ce qui est possible ou non dans le chocolat. Parce qu'on n'est pas un complément alimentaire ni un médicament, on est une denrée alimentaire enrichie. Donc il y a des choses qui ne sont pas utilisables, notamment. Alors là, je parlais de chocolat énergie, notamment, il y a le camu-camu, qui est très riche en vitamine C, donc je voulais utiliser le Camu Camu dans ma chocolat, ma tablette de chocolat énergie. Le problème, c'est que le Camu Camu, c'est dans le registre Novel Food.
Et donc, c'est pas compatible, hein?
Alors, non, justement, Novel Food, c'est un registre qui a été créé le 15 mai 1997 et qui vient en fait statuer sur l'utilisation ou non de plantes dans l'alimentaire.
Ah, donc voilà. Donc on sort du domaine de l'alimentaire, de l'alimentation, si vous prenez certaines substances qui est
exactement
interdite finalement.
Alors, c'est pas interdit, mais il faut une obligation, il faut une autorisation, pardon, qui nécessite beaucoup de temps, d'études, et c'est très onéreux.
Donc vous l'avez remplacé par quoi
Par la cérola.
Par la cérola. Mais vous avez raison, parce qu'il y a de plus en plus, moi je voyais en faisant les courses, il y a de plus en plus de pain de mie enrichi à la cérola aujourd'hui.
La cérola, c'est 30 fois plus riche en vitamine C qu'une orange. Donc, c'est très, très riche en vitamine C.
Et c'est possible. On peut l'insérer.
Exactement, c'est possible.
D'accord. Donc, il y a combien de sortes aujourd'hui? Combien de références?
Alors, j'en ai 4 et j'en sors une cette semaine, donc en fin de semaine.
Donc, vous sortez quoi?
Je sors un chocolat spécial pour la femme que j'appelle le Superwoman, qui va venir rééquilibrer les hormones et l'humeur, notamment l'équilibre émotionnel de la femme pendant les cycles.
Donc, il est à base de?
Ça sera un chocolat noir 70% avec éclat d'amande et framboise, et on aura de l'armoise, huile d'onagre, huile de bourrache, du safran, de la vitamine B6 et vitamine B9.
Et alors le goût, est-ce que ça reste un bon goût? Moi je l'ai goûté, je trouve ça, pas celui-ci, mais j'en ai goûté un que j'ai trouvé délicieux, mais comment convaincre nos auditeurs aussi, les auditeurs d'Europe 1, comment quand on dit qu'il y a de l'huile d'onagre, de bourrache, la cérola, comment on garde le goût du chocolat?
Tout à fait, c'est mon principal défi. En fait, moi, je suis une gourmande avant tout. Et ce que j'aime avec le chocolat, c'est, comme on a écouté les interviews avant, c'est les émotions qu'il transmet. C'est le partage, c'est l'enfance, c'est les souvenirs. Et je voulais vraiment que ce soit présent dans ma marque. Et c'est pour ça que j'ai plein de couleurs, un univers très pop qui transmet des émotions positives. Et pour les recettes, on est sur des recettes très gourmandes. Et je mets avant tout le goût du chocolat avant les plantes.
Donc vous mettez combien de temps pour trouver le bon dosage? Vous avez dû en goûter, hein?
Oui, on en a goûté beaucoup. Et ça nous a pris à peu près 1 an et demi par recette.
Et vous faites tester autour de vous?
Je fais beaucoup tester autour de moi. Je fais aussi tester mes chocolats après fabrication. Parce que c'est pas le tout de mettre des ingrédients dedans. C'est ensuite comment ils se conservent. Est-ce qu'à 2 mois, on a toujours autant d'actifs? 3 mois, 6 mois? Comment ça évolue dans le temps? Donc tout ça, ça met beaucoup de temps pour fabriquer une tablette. Et mes recettes sont avant tout gourmandes. Donc on est sur un chocolat praliné pour le stress. Le chocolat énergie, c'est un chocolat au lait qui vient pétiller en bouche. L'idée, c'est que ça vienne réveiller les sens. L'aphrodisiaque, c'est un caramel gingembre. Donc, on est sur des chocolats qui sont avant tout gourmands et qui font du bien.
Clara,
est-ce que du coup, il y a des dates de péremption sur vos chocolats? Parce que les tablettes de chocolat classique, ça se garde quand même des mois, voire des années.
Oui. Alors, normalement, un chocolat classique, c'est entre 1 à 2 ans. Moi, on est sur 1 an sur mes chocolats, pas tous pleins. Et mon feel good, il a 6 mois.
Europe 1, la France bouge.
Elisabeth Assayag.
Et bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h. Et oui, elle bouge cette France. Et elle mange, elle déguste du chocolat ce soir. Nous sommes avec Richard Fournier, le patron des comptoirs de Mathilde. Et oui, on parle chocolat ce soir car c'est lundi de Pâques. Et on vous fait découvrir les innovations françaises dans le chocolat. Et oui, rêvons un peu, ça fait du bien. Et le comptoir de Mathilde, c'est l'histoire de l'ascension gourmande d'une entreprise fondée par le petit-fils d'une boulangère, Mathilde, et d'un pâtissier chocolatier. C'est vous, Richard Fournier. Ça s'appelle donc les comptoirs de Mathilde. L'entreprise a ouvert combien de comptoirs depuis 2007?
155 magasins en France.
155 magasins en France et en Belgique. Nous sommes toujours avec la start-up de ce soir, Delicao. D-E-L-I-K-A-O. Je ne sais pas si vous êtes allé faire un tour sur les réseaux sociaux pendant la pause musicale, mais ça donne envie parce que c'est totalement original. Je trouve que, comme on dit, vous disruptez le marché, Marie Reynaud. Vous fabriquez des tablettes de chocolat dites fonctionnelles, enrichies en plantes, en vitamines, en minéraux, mais ce ne sont pas des compléments alimentaires, il faut le préciser, hein.
On peut
avaler la tablette, quoi.
Non, quand même pas. Justement, on vient pour apporter des bénéfices. On vient doser aussi le chocolat.
Donc ça veut dire qu'on prend quoi? 1-2 carrés par jour?
4 carrés
maximum. C'est écrit sur la tablette?
Oui, tout à fait.
Ah,
4
bien.
Carrés, c'est 15 grammes de chocolat.
Vous voulez les faire tourner hein, pour qu'on les...
4 carrés, c'est quoi? C'est une barre?
C'est une barre, exactement. Une tablette fait 6 jours.
Mmh.
Et l'idée, c'est de rester une marque très gourmande, donc on se fait plaisir, mais avec une notion d'équilibre aussi. C'est qu'on fait une consommation raisonnée de chocolat, donc on fait vraiment plaisir avec un chocolat qu'on aime, du praliné, du chocolat au lait. Mais on sait ce qu'on consomme, on consomme 4 carrés, c'est la dose suffisante pour ressentir les bienfaits des actifs que je viens rajouter dans mes recettes.
Par exemple, Get Up and Go, pourquoi vous avez donné à chaque fois des noms anglais? C'est pour exporter?
Alors, comme avant, j'ai aidé un ami qui était au Pérou, donc j'étais dans un business qui était entre l'anglais et l'espagnol, donc je ne parlais pas français. et je trouvais ça évocateur. Et moi, j'aime bien aussi les noms, les titres anglais, parce que je trouve qu'on peut dire beaucoup de choses en peu de mots, et notamment sur mon chocolat stress, je l'appelle le feel good, c'est très positif.
Ouais, c'est très
alors
positif.
Alors que chocolat anti-stress en français, c'est un peu moins positif.
Ouais, vous avez raison. Mais il y a écrit Gallop and Go en bas, juste en bas de la tablette, il y a le drapeau tricolore avec écrit fabriqué made in France. Ils sont fabriqués où les chocolats ?
Alors du côté de Paris, vers Mantes-la-Jolie.
Mm-hmm, dans un atelier.
Tout à fait.
Et vous y allez régulièrement, vous...
J'y vais souvent, j'y vais demain d'ailleurs pour notre prochaine recette qui sort cette semaine. Mm. Mais oui, j'y vais régulièrement.
Vous y allez régulièrement. Clara, les chocolats préférés des Français, là on l'a vu, hein, là il y a du noir, il y a du lait, ça pétille, il y a du gingembre. On est sur le chocolat noir. Hein.
Oui, là c'est le chocolat noir qui arrive en tête. On a un peu plus de 57% à le préférer en deuxième position. On est un peu plus de 54% à préférer le chocolat au lait. Et enfin en dernier, on est 27% à être des adeptes du chocolat blanc. Qu'on trouve généralement sucré et gras.
Jérôme,
ça fait plus que 100%. Hein, c'est... Ouais, à mon avis, il mange pas mal.
Ouais, on en mange pas mal. Ça fait plus que 100% tout ce qu'on a regardé. vous restez autour de la table de La France Bouge avec vous, Marie Reynaud. Vous êtes la fondatrice de Delicao. Si vous êtes parmi nous, c'est parce que vous avez des besoins, vous avez besoin de vous développer. C'est quoi vos principaux besoins? Si on a une baguette magique, là, vous souhaitez quoi? Comment on peut vous aider?
Alors, je pense que mon axe principal en ce moment, c'est la distribution. Delicao, j'ai fondé ça il y a 8 mois maintenant, donc je me suis concentrée sur mon B2C avec mon site internet, c'est delicao.fr.
Donc tout est vendu sur internet aujourd'hui ?
Tout est vendu sur internet, j'ai quelques revendeurs et justement je souhaite développer plus mes retail.
Mmh. Avec combien 3, la tablette ?
9,99€.
Ouais, ce qui est acceptable, hein ? C'est acceptable comme prix.
C'est 1,66€ par jour si on prend vraiment 4 carrés par jour.
Donc votre envie première là, c'est d'être distribué un peu partout et d'avoir plusieurs canaux de distribution et non pas que le site internet. Pour cela, évidemment, c'est le moment d'ouvrir notre carnet d'adresses dans La France Bouge.
Europe 1, le réseau La France Bouge.
Avec vous ce soir, Jérôme Giacomoni, vous êtes le fondateur du groupe Aérophile, vous êtes un entrepreneur aguerri, vous avez étudié les besoins de la start-up pendant tout le week-end de Pâques là, de Delicao. On l'a compris, pour vous c'est un excellent positionnement Delicao.
Ah, moi je trouve que c'est très original, son packaging, la façon de présenter les choses, finalement... ça nous permet de manger du chocolat en ayant bonne conscience.
Bonne conscience, ouais.
Et c'est vrai que je trouve que l'idée est très bonne. Je pense qu'effectivement, là, l'enjeu maintenant pour Marie, c'est vraiment de développer son réseau. Il faut faire des salons professionnels. Je pense que la première chose qu'on fait quand on crée une boîte, moi, c'est le conseil que je donne, commencer par les salons professionnels dans lesquels on veut rentrer, parce qu'on voit en fait... tous les réseaux, c'est-à-dire
on
à
voit
la
tous
fois
les réseaux,
des revendeurs,
on voit les revendeurs, la concurrence potentielle, les clients, le consommateur.
C'est fantastique. Il faut toujours faire un salon professionnel quand on veut se lancer dans un domaine, parce que finalement, c'est tout l'environnement autour d'un domaine qui vous permet de comprendre
c'est
comment ça
juste.
Marche.
C'est très juste. Hein, je vois que vous acquiescez, Richard Fournier.
La
vous
première
êtes le patron
année,
des comptoirs de Mathilde.
La première année, quand j'ai créé le comptoir de Mathilde, j'ai fait 9 salons professionnels.
Et voilà, c'est ça.
Et pourtant, je suis issu des salons grand public, parce que je faisais... des marchés et
oui, on aurait pu croire que vous avez déjà le réseau, mais pas du
tout.
Ouais. Donc, salon professionnel, premier conseil de Jérôme Giacomoni. Quoi d'autre ?
Alors, ce qui est bien dans ton domaine, c'est que tu n'as pas beaucoup d'investissements à faire. C'est-à-dire que tu n'as pas une usine à créer. Donc, tu peux avancer step by step. Et je te conseille d'aller tout de suite sur les marchés qui te semblent les plus proches de ceux qui vont acheter le plus possible tes tablettes. Donc, est-ce que c'est les habitants de tel quartier ? Est-ce que c'est tel groupe de grande distribution ? Tu as quand même une affinité sur ton produit par rapport au marché global. Tu vois, peut-être qu'il y a certains magasins où les gens n'achèteront pas tes produits. Il y a peut-être, au contraire, d'autres zones géographiques qui adoreront ton produit pour plein de raisons. Donc ça, il faut que tu essayes de voir des produits qui sont un peu similaires aux tiens. Tu vois, rentrer un peu... tes pieds dans les chaussons des autres pour voir un peu qu'est-ce qui est semblable. Finalement, c'est bien d'aller dans les marchés où on sent que les gens ont envie d'acheter. Et c'est après tout de suite faire, bien sûr, tes tableaux Excel et faire, en fonction des différents endroits où tu t'es mis, combien de plaquettes tu vends, enfin, tout ça tu sais.
Non, mais c'est important de nous le rappeler.
Un tableau de bord, c'est comme un avion, tu as du kérosène, c'est ton argent, il faut que tu tiennes le plus longtemps en l'air et il faut tout de suite que tu ailles chercher les vents porteurs. Donc bien sûr, tout de suite bien voir où est-ce que c'est le plus facile. Et après, tu attaques le plus difficile. Mais commence par le plus facile pour avoir un bon business case et pour pouvoir faire confiance aux banques, faire confiance aux potentiels investisseurs en démontrant ton business model.
Parce que là, vous avez raison, Jérôme, d'aborder la notion des banques, parce que j'imagine que vous souhaitez aussi faire une levée de fonds.
Alors, c'est Marie. Pas ma priorité aujourd'hui. J'ai fait un prêt familial qui me permet de tenir pour l'instant.
Et vous avez vendu la voiture, hein?
Oui, ça, c'est pour avoir des capitaux propres au début, pour les premiers investissements.
Ça m'a fait sourire.
J'avais fait la même chose il y a 31 ans. Ouais.
On lui souhaite la même réussite et le même succès que ce que vous avez, Jérôme. Donc, vous, aujourd'hui, lever des fonds n'est pas la priorité. Vous avez ce qu'il faut.
Alors, pour l'instant, parce que Delicao, depuis 2 mois maintenant, donc grâce à l'avancée de Noël et mon lancement de février, je peux autofinancer mon développement actuel. Donc, pour l'instant, je rentre dans mes frais. Mm-hmm. Par contre, oui, il faudrait que je mette un coup d'accélérateur un jour parce qu'il faudra que je recrute, que j'améliore, que j'agrandisse mon équipe. Et quand ma production va augmenter, quand ma distribution va augmenter, il faudra que je tienne la route. Mais tant que j'ai pas de distributeur, j'ai un distributeur qui commence du 7 au 21 avril. Je rentre à la grande épicerie à Paris.
Ça va, c'est bien.
C'est très très bien. Je suis très contente.
C'est chic. C'est ce que
moi j'aurais essayé une parapharmacie ou une pharmacie. T'as essayé ou pas?
Alors, j'ai pas essayé parce que je pense que je suis un chocolat gourmand avant tout. Et je pense qu'en pharmacie, on va chercher quelque chose de très très sain. Alors peut-être avec l'alternative de sucre, justement, index glycémique bas.
Il y a du sucre dans vos chocolats?
Oui.
Mais un sucre normal ou c'est des remplacés?
Il y a du sucre comme un chocolat. En fait, pour faire du chocolat, il faut 3 ingrédients. Il faut la pâte de cacao, du beurre de cacao et du sucre.
Mais c'est du sucre blanc, quoi. C'est pas du sucre... Ok.
Exactement.
Donc ouais, par contre, pharmacie...
C'est ça. Par contre, c'est 4 carrés, donc on est à 3,6 grammes de sucre. C'est moins qu'un morceau de sucre. Un morceau de sucre, c'est 6 grammes. Donc, dans 4 carrés de chocolat, il y a moins de sucre que dans un cappuccino, par exemple. Donc, ça reste un dosage acceptable. Et c'est pour ça que je dis, Delicao, c'est 4 carrés par jour. C'est votre gourmandise qui ne vous fait pas culpabiliser. On sait ce qu'on consomme, on se fait plaisir. Mais ce n'est pas le secteur pharmacie.
Richard Fournier, quel conseil pourriez-vous donner, vous, ce soir? Je rappelle que vous êtes le fondateur des compteurs de Mathilde sur Europe 1, à Marie Reynaud, fondatrice de cette belle start-up Delicao.
Tout à l'heure, lorsqu'on s'est rencontrés dans le hall d'entrée, on a discuté du salon du chocolat. On était voisins. Elle était dans l'espace des jeunes talents. C'est très bien. Je pense qu'il faut aller également se confronter aux consommateurs. C'est vraiment important d'aller faire quelques salons en grand public et d'avoir le retour des consommateurs. Ça te permettra de voir quelle est la trajectoire à prendre.
Donc vous restez sur les salons. Le carnet d'adresses que vous pourriez partager, Jérôme Giacomoni, pour qu'elle puisse encore mieux se faire connaître, Marie Reynaud et Delicao.
Bah déjà, ce qu'elle fait là, c'est super. Ouais. Et vous écrire, Elisabeth, souvent.
Voilà. C'est parfait.
Se faire connaître, les réseaux sociaux, tout ce que tu peux faire, effectivement, pour te faire connaître, parce que tu lances quelque chose. Et puis, moi, je suis dans le domaine des parcs d'attractions. Donc, moi, j'ai un parc qui s'appelle le Parc du Petit Prince en Alsace. Donc, c'est vrai que Pâques, pour nous, c'est très important. On fait une chasse aux œufs aussi. Donc, pourquoi pas? On pourrait essayer de vendre tes chocolats dans notre parc. On a une boutique. On vend pas mal de produits aussi de type, confiserie. Donc oui, tu peux essayer. Moi, je peux essayer de t'introduire auprès de tout ce qui est parc d'attractions. Et puis après, effectivement, tu as tous les grands classiques en France. On a beaucoup de chance pour ça, pour t'aider. Tu as bien sûr BPI. Hein,
la banque publique.
Bien sûr, qui peut t'aider dans ta création d'entreprise. Tu as aussi, si tu veux te développer à l'international, Business France. Donc tout ça, c'est des grands atouts qu'on a en France et qu'il faut que tu profites en fonction de ta croissance.
Et peut-être rendez-vous au Parc du Petit Prince.
Et Parc du Petit Prince,
pourquoi pas.
Avec le Petit Prince, sa rose et son renard qui adore le chocolat, bien sûr.
Évidemment. Allez, vous restez autour de la table de la France Bouge, parce que la France Bouge, c'est aussi une grande famille, comme la grande famille Europe 1. Alors, on va prendre des nouvelles des membres de la grande communauté de la France Bouge.
La France Bouge, que sont-ils devenus ?
Clara, on va passer un coup de fil à la fondatrice de Raconte-moi un chocolat, rappelez-nous.
Oui, c'est Brigitte Fayard, donc c'est la fondatrice d'une box mensuelle autour du chocolat qui s'appelle Raconte-moi un chocolat. Dans cette box, vous recevez chaque mois plusieurs tablettes de chocolat ainsi qu'un parcours initiatique qui en fait vous permet de découvrir d'où vient ce chocolat, comment on le déguste pour en capter tous les arômes. Ça fonctionne un peu comme du bon vin.
La box de vin.
Exactement. Brigitte était venue dans la France Bouge en avril 2022 et depuis elle a bien fait grandir sa boîte.
Et oui, c'est le cas. Brigitte de Bayard, bonsoir.
Bonsoir Elisabeth.
Vous allez bien?
Très bien, et vous-même?
On est ravis, mais oui, vous voyez, ça va bien. On a des jeunes talents comme Marie ce soir avec Delicao. Comment ça va alors depuis votre passage dans la France Bouge sur Europe 1? À l'époque, elle le disait, Clara, hein, ça démarrait. Aujourd'hui, comment ça se passe pour vous?
Et ça se passe toujours très bien.
Ça fait plaisir.
L'activité s'est développée. On a pris en compte les avis de Nathalie Carré à la base. De la CCI,
avec ses précieux conseils. On l'embrasse.
On a donc travaillé sur notre site. On a développé l'offre sur le e-shop pour des coffrets à l'unité, mais aussi toute une gamme de tablettes. Que ce soit chocolat noir, chocolat au lait, avec des pictos, des filtres pour faciliter le choix. On a aussi développé l'activité B2B, donc les cadeaux d'affaires ou les cadeaux pour les salariés en fin d'année. Mmh. On a également développé de nombreux partenariats avec la SNCF, par exemple, ou encore Decathlon.
Et c'est quoi des partenariats avec SNCF ou Decathlon? Ça veut dire que vous leur... comment ça se matérialise?
Alors, pour Decathlon, on a intégré leur programme de fidélité.
Ah, d'accord, donc par ce biais-là. Mmh.
Voilà, donc si vous êtes client Decathlon, vous allez collecter des points et vous pouvez avoir une réduction par Decathlon sur le site de Raconte-moi un chocolat.
D'accord, j'ai compris. Et vous avez augmenté le nombre de box, hein, de boîtes aussi.
Tout à fait, on a développé notre offre. On prépare aussi notre propre marque de chocolat.
Ah oui, ça va très très loin.
Avec toujours des chocolats, oui, avec des chocolats d'origine qui sont fabriqués depuis la fève à la main par un de nos partenaires, avec des millésimes à haute teneur en cacao.
Formidable. Voilà. Et ça s'appelle, et les chocolats s'appelleront Raconte-moi un chocolat.
Voilà, tout à fait. La marque Raconte-moi un chocolat.
Voilà, formidable. Ça vous inspire autour de la table aussi, ça? Les box de chocolat, vous y avez déjà pensé aux box de chocolat, Richard Fournier?
Écoutez, nous on fait des colis gourmands, mais on n'a jamais pensé aux box de chocolat par abonnement.
Ouais, voilà. Non, mais voilà, on est content d'avoir de vos nouvelles, Brigitte Bayard. Vous avez, je crois même, par exemple, un coffret chocolat noir. Je rebondis sur ce que disait Marie Reynaud, un chocolat noir qui fait du bien à la santé. C'est ça le nom de la box, de la boîte.
Les chocolats qui font du bien, en effet, c'est un parcours initiatique autour des bienfaits du chocolat noir. Donc, dans cette sélection, on a trois chocolats. Un chocolat avec une haute teneur en cacao, donc à 75%. Un chocolat dont le sucre est remplacé par de la pulpe de fruits, donc de la banane et de la date, et qui n'a pas de sucre ajouté.
C'est bien ça.
Et un chocolat dont le sucre est remplacé par du mucilage. Et le mucilage, c'est la pulpe qui va enrober les fèves de cacao dans la cabosse.
C'est inépuisable. On apprend à chaque fois des très, très belles choses. Dans la France bouge, merci Brigitte Bayard, fondatrice de Raconte-moi un chocolat. C'est déjà la fin de cette France qui bouge et qui déguste du bon chocolat en ce lundi de Pâques. Merci Richard Fournier, fondateur des comptoirs de Mathilde, d'être venu ce soir dans les studios d'Europe 1 pour la France bouge.
Avec plaisir. Merci Elisabeth.
Merci à vous. Marie Reynaud, bonne chance pour Delicao. Vous nous donnez des nouvelles si vous avez appliqué les précieux conseils de Jérôme Giacomoni. Merci d'être venu ce soir dans la France bouge, cofondateur du groupe Aérophile. Clara Léger, on se retrouve demain.
À demain.
Europe 1. La France bouge. 20h, 21h. Elisabeth Assayag.